Seigneur, merci de nous gérer encore à travers l'écoute de ta parole, la lecture de ta parole. Que tu nous parles, Seigneur, et que nous recevions la vie qui vient de toi. Car c'est toi qui sauves, c'est toi qui transformes, c'est toi qui relèves l'indigent, c'est toi qui ressuscites les morts. Qu'il en soit ainsi encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, Père éternel, béni soit ton nom. Amen. Nous lisons dans Luc 4. Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 16, Luc 4, à partir du verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est une prophétie de l'Ancien Testament que Jésus-Christ lit ce jour-là à Nazareth. Et ça nous rappelle la mission du Seigneur. Le Seigneur est venu pour les malheureux. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous lisons cette prophétie dans Ésaïe 61. Donc le livre d'Ésaïe a été écrit plus de 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Et nous venons de lire ce que Jésus a fait comme commentaire. Vous savez, quand il a lu, il a dit que cette prophétie venait de s'accomplir. Donc lui, il était venu pour agir ainsi. Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévasté depuis longtemps. Voilà la prophétie d'Ésaïe sur la venue d'un homme qui sera oint par Dieu et qui va annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, qui va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, nous tous, nous suivons Jésus La raison principale étant que nous étions perdus et Dieu nous a montré cela et nous a attirés à lui pour son salut. C'est ça la raison principale. Mais en suivant Jésus, nous pouvons avoir aussi certaines raisons particulières. Et en ce qui me concerne, une des raisons particulières, c'est que Jésus est le défenseur des faibles. Quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'avais toujours un cœur à vouloir défendre les faibles, à aider les mendiants, les pauvres. Je pleurais pour que ma mère donne de l'argent aux mendiants à la rue. Et quand j'ai connu le Seigneur, c'était d'abord pour moi-même, pour mon propre salut. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il était celui qui pouvait exaucer le vœu de mon cœur de voir les malheureux secourus, les gens en difficulté soutenus, aidés, les gens désespérés relevés. Vous savez, quand vous voyez un homme esclave de la cocaïne ou de l'héroïne, ça fait très mal. Des gens qui en arrivent à dépenser 200 euros par jour pour leur dose, ça fait très mal. Lorsque nous voyons les prostituées à Rouen, en plein hiver, dehors, dans les rues, subissant le froid, ça fait très mal. Alors que tu es dans ta voiture au chaud, tu vois cette jeune fille-là, parfois ce n'est pas de sa volonté, elle est exploitée. Dehors, en plein hiver, ça fait très mal. Et quand on a un cœur qui veut aider de telles personnes, on ne peut qu'aimer Jésus parce que Jésus est venu pour de telles personnes. Jésus est venu rétablir les ruines. Les choses qui sont ruinées, il est venu les restaurer. Jésus est venu pour les anonymes, les gens dont personne ne s'occupe. Les textes sont parlants par eux-mêmes. Nous allons lire beaucoup. Vous savez, il y a une femme, dans Luc 13, nous lisons Luc 13 au verset 10. Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aime Jésus. Quand je lis de telles scènes, cette femme, ça faisait 18 ans qu'elle avait le dos courbé. Vous savez, dans son pays, on pouvait changer de gouvernement. Son dos allait toujours rester courbé. On pouvait changer de souverain sacrificateur. Son dos était resté toujours courbé. 18 ans. On pouvait même lui donner beaucoup d'argent. Son dos allait rester toujours courbé. Et Jésus passe par là. Il observe la femme. Il dit, « Femme, tu es guérie de ton infirmité. » Mais c'est pour cela qu'il était venu. Écoutons la suite. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Vous voyez que cette femme, non seulement elle avait le dos courbé, mais les gens qui étaient censés aider cette femme-là n'avaient même pas souci d'elle. Parce que qui étaient les gens censés aider cette femme? C'étaient les gens de Dieu, les sacrificateurs et autres scribes. Mais quand Jésus a guéri cette femme, leur souci c'était seulement, mais ils n'ont pas respecté le sabbat, ils n'ont pas vu la grâce formidable que c'était pour cette femme, la délivrance formidable que c'était pour cette femme. Parce que ces gens-là n'étaient plus de Dieu. Dieu veut sauver les malheureux, veut sauver les gens qui souffrent, les misérables, les petits. Et ces gens-là ont cru que Dieu était dans la religion. Non. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Nous devons en être certains aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est encore en action parce qu'il veut annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Nous devons quitter la religion qui nous pousse à vouloir chercher des postes, à vouloir chercher des élévations personnelles. Nous devons revenir au véritable Dieu qui veut aider les malheureux. Et Jésus, c'est ce Dieu-là. Cette femme a vu son dos redressé. Quelle joie! Il est écrit, elle glorifia Dieu. Et Jésus veut donner cette joie aux malheureux. Lorsque Adam a péché, le monde a commencé à connaître la véritable souffrance. Les guerres, les divisions, même les propres enfants d'Adam ont eu des conflits qui ont conduit à la mort d'Abel. Les maladies, les éruptions volcaniques, toutes les calamités sont venues par le péché d'Adam. Dieu n'était pas content de tout ça, ne pouvait pas supporter voir la méchanceté des humains. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a envoyé le déluge de 40 jours sur la terre afin d'éliminer la race humaine. Il y a eu 8 personnes qui ont trouvé grâce devant lui. Noé et sa famille. Et à partir de Noé et sa famille, la race humaine s'est prolongée. Mais Dieu a décidé de ne plus éliminer la race humaine de cette manière-là. Il a décidé de faire une œuvre encore beaucoup plus puissante, remplie d'amour, remplie d'espérance. C'est l'œuvre du salut par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus est venu rétablir les choses qui étaient détruites. Jésus-Christ est venu restaurer. Il est venu sauver. Nous devons prendre conscience de cela. J'aime Jésus à cause de cela. Face à Jésus, un malheureux est dans la joie. Mais aller dans la religion normale, vous allez voir que ce sont ceux qui ont l'argent, ce sont ceux qui sont riches, ce sont ceux qui sont élevés dans la société, qui sont encore avantagés, alors que chez Dieu, il ne devait pas y avoir de favoritisme. Jacques nous le dit dans son épître. Il dit, mais vous traitez les gens avec favoritisme en fonction de leurs moyens. Ce n'est pas bon. La vraie religion, c'est venir en aide aux veuves, aux orphelins. C'est s'occuper des malheureux. Et aujourd'hui, bien-aimés, les malheureux, il y en a encore plus qu'avant. Il y en a encore plus qu'avant. Nous devons nous rappeler cela aujourd'hui, qu'il y a des malheureux qui ont besoin de Dieu. Parce que c'est le Seigneur seul qui apporte la vraie solution. Le Seigneur touche la personne, sauve la personne, alors que nos gouvernements cherchent des solutions générales. Nos gouvernements n'ont pas la capacité de s'occuper de chaque humain individuellement. Ils ont des solutions pour la masse. Et en ayant une solution pour la masse, il y a toujours des laissés pour compte, des gens dont que cette solution n'arrange pas. Il y en a toujours. Quand ils vont prendre l'option A, il y a des gens qui auraient préféré l'option B et qui vont souffrir. Mais Dieu, dans sa toute puissance, a la capacité de sauver un à un, donc d'aller vers un à un, chaque individu. C'est pourquoi il est beaucoup plus efficace, parce qu'il te sauve en fonction de tes problèmes à toi. Le problème le plus important étant le salut. Parce que tout ce que nous vivons difficile est dû à la présence du péché. Tout ce que nous vivons est conséquence de l'entrée du péché dans le monde. Et ce péché est en train de ruiner chaque individu. Chaque humain est en train de se laisser ruiner par le mal. C'est pourquoi notre Père a envoyé son Fils. Il a envoyé Jésus pour s'occuper de chaque cas individuellement, alors que l'État, alors que les laboratoires pharmaceutiques font des choses pour la masse. Et en faisant les choses pour la masse, vous allez voir certaines personnes, deux personnes, A et B. La personne A va prendre le médicament, ça guérit la personne, et l'autre B qui va prendre, ça va créer des conséquences néfastes, des effets secondaires néfastes, et il ne peut pas supporter ce médicament-là. Parce que le médicament n'a pas été créé pour chaque individu, mais pour un humain en général. Dieu est venu pour toi individuellement, par son Fils Jésus. Individuellement, il est venu nous chercher. Lisons Luc 19. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Zachée était sur l'arbre. Il ne pouvait pas imaginer que Jésus connaisse son nom. Il ne se connaissait pas avec Jésus. Et Jésus passait par là. Et Zachée, c'était un homme détesté par la population. Tous les gens qui le connaissaient le détestaient parce que c'était un collecteur d'impôts et il surtaxait aussi les gens. Mais quel ne fut l'étonnement de Zachée lorsque Jésus lève la tête et l'appelle par son prénom, Zachée, descend, je veux manger chez toi. Zachée ne pouvait pas comprendre. Dieu le connaissait, lui? Oui, Dieu le connaissait, lui. Beaucoup de gens ne savent pas combien Dieu les connaisse. Dieu connaît chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas dire que Dieu connaisse certains plus que d'autres. Parce que pourquoi il y aurait un tel favoritisme? Dieu n'est le cousin de personne. Il n'est l'oncle de personne. Il nous a créés tous au même niveau. Donc il nous connaît tous individuellement. Il veut s'occuper de nous individuellement. Zachée est le cas le plus frappant de cette bonté de Dieu qui dit dans, au verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc Jésus est venu remplir la mission de rétablissement de chaque humain, parce que chaque humain était perdu dans le péché. Mais Dieu n'a pas envoyé une solution globale. Allez, voici la solution globale. Autrefois, oui, Dieu avait donné la loi, qui était comme une solution globale pour tout le peuple d'Israël. Mais ça n'a pas marché, parce que le peuple d'Israël ne s'est pas quand même rapproché de Dieu malgré tout cela. Il y a eu quelques serviteurs, dans la vérité, au milieu du peuple, oui, mais le peuple n'a pas suivi Dieu. Alors le Seigneur a envoyé son fils Jésus avec une solution individuelle pour chacun d'entre nous. Nous chercher, nous rencontrer individuellement. C'est ce qu'il veut que l'on sache aujourd'hui. Il est venu pour toi. Zachée était riche, mais il était malhonnête. Tu peux avoir certains avantages dans ta vie, mais tu as aussi des problèmes. Zachée avait un problème, c'est qu'il se sentait perdu. Même s'il était riche, il était l'ami des Romains, il n'était pas bien. Mais il devait se dire, je suis trop méchant pour intéresser Dieu. Je suis trop mauvais pour que Dieu s'intéresse à moi. Il s'était certainement lui-même jugé. Il s'était dit que c'était pas la peine d'essayer d'être bon. Parce qu'il était déjà, il aimait trop l'argent. Mais quand il a vu celui que lui était venu voir, comme une sorte d'étoile, comme une sorte de merveille, il a vu le Fils de Dieu l'appeler, dire Zachée, viens. Je veux aller chez toi. Tout l'orgueil de Zachée, toute sa soif pour l'argent est partie. Parce qu'il a compris que le Dieu qui a fait les cieux et la terre s'intéressait à lui. Il a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie ancienne. Je vais te suivre. Jésus a dit, amen. Parce que toi aussi, tu as droit au salut. Parce que je ne me sacrifie pas que pour certains. Je me sacrifie pour tout le monde. Bien-aimé, toi aussi, tu as droit au salut. Mais ne t'exclus pas. Tu as droit à ça. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi aussi. Pourquoi les autres seraient sauvés? Pourquoi pas toi? Tu es trop mauvais. Mais il est écrit que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu est plus grand que notre cœur. Son amour est plus grand que notre méchanceté. Tu as droit aussi à être sauvé. Le salut n'appartient pas aux gens qui vont dans les églises. Le salut appartient à Jésus. Et Jésus est venu te chercher individuellement. Il est venu pour toi. C'est ce que tu dois réaliser aujourd'hui. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Bien-aimé, nous avons regardé l'histoire d'un homme qui n'était pas bien, alcoolique, qui tapait sa femme, un musulman, un turc, je crois. Il buvait énormément. Mais ça a fait tellement de dégâts dans sa vie qu'il s'est dit que bon, là, il faut que je cherche Dieu. Et il a dit, je dois faire le pèlerinage. Bien-aimé, à la Mecque, hein, dans le centre le plus puissant des musulmans, c'est là que Jésus lui apparaît. Jésus lui dit, je suis venu te chercher. Lève-toi, sors de cet endroit. Je vais te montrer ce que tu dois savoir. Vous vous imaginez quelqu'un à la Mecque, c'est là que Jésus vient le sauver. Mais pourquoi Jésus ne te sauvera pas toi? Pourquoi? Comme ce garçon qui dont, qui était devenu un bandit, trafiquant, et dont la maman était une fervente servante de Dieu. Elle priait pour son fils. Cela faisait 14 ans. L'état de son fils empirait. Un jour, cet enfant-là, ce garçon, ce jeune homme, en plein carnaval au Brésil, dans la luxure, dans le péché, il entend la voix de Jésus qui lui dit « Sors de là ». Bien-aimé, il a voulu résister, la voix a insisté « Sors de là ». Il est sorti et il rentre chez lui où il vivait avec sa copine. Dès qu'il arrive, sa copine, sa concubine lui dit « Je ne t'aime plus. Éloigne-toi de moi, bien-aimé. Jésus est tout puissant. » Il est parti même influencer cette fille-là, ce garçon-là. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison, je ne veux plus de toi, vas-y, va-t'en. C'est ainsi que ce garçon est parvenu au salut. Dieu s'intéresse à toi, bien-aimé. Nous venons de lire deux textes, Luc 4 et Ésaïe 61. Ésaïe 61, ça a été écrit 700 ans avant que Jésus vienne. Ésaïe 61 nous dit qu'il y a un homme qui va venir avec l'Esprit du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il va guérir les aveugles, il va rétablir les ruines. Il va libérer les captifs. Et dans Luc 4, Jésus lit le même texte et il conclut en disant « Ce texte vient de s'accomplir. Je viens maintenant moi l'accomplir. » Et nous sommes en train de lire l'accomplissement. Avec Zachée, nous lisons encore Luc 7. Luc 7. À partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Voilà encore un beau texte. On voit une femme, on peut supposer qu'elle était prostituée, qui vient pleurer. Alors que Jésus est l'invité des hommes religieux de cette époque-là. Vous savez, à cette époque-là, une femme prostituée ne s'hasardait pas dans la ville. Elle restait en dehors de la ville. Mais là, elle a pris le risque d'entrer carrément là où Jésus était, avec des hommes religieux. Et elle touche Jésus. Et les gens disent, mais c'est pas possible. Comment un homme sain comme ça accepte qu'une telle femme la touche, le touche? En plus, il ne se rend même pas compte que c'est une femme prostituée, pécheresse. Jésus dit, je le sais que c'est une femme prostituée. Je le sais que c'est une femme pécheresse. Mais cette femme est venue parce qu'elle cherchait le pardon. Elle cherche le pardon de ses péchés. Vous, vous êtes sec parce que vous croyez bon et Dieu a fait quelque chose de grand en apportant le salut, mais ça vous est indifférent parce que vous vous croyez déjà bon. Vous sentez pardonné que de peu. C'est pourquoi vous n'aimez pas beaucoup Dieu. Mais cette femme se sent pardonnée de beaucoup. C'est pourquoi elle aime. Elle vient verser tout ce parfum. Je suis venu pour cette femme, bien-aimée. Jésus a voulu leur dire, je ne suis pas venu pour les bons, je suis venu pour ce genre de personnes. C'est pourquoi, bien-aimée, ne t'exclus pas du salut, s'il te plaît. Ne rejette pas la grâce de Dieu en te disant que tu es trop dur et trop mauvais. Tu es trop plongé dans le mal. Que ce soit l'alcool, les drogues, la colère. Jésus est venu justement pour les gens comme toi. T'exclure, ça serait de ta propre faute. Regarde le courage de cette femme. Juste, elle ne pouvait même pas entrer dans une maison normale étant prostituée. Mais là, elle a pris le risque d'entrer dans une maison de religieux, des gens qui pouvaient même la fouetter tout de suite. Mais elle s'est dit, mon salut se trouve en Jésus. Jésus est là-bas. L'amour de Dieu personnalisé, manifesté physiquement est dans cette maison-là. Je ne regarde pas tous ces gens. Moi, je vais vers l'amour de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, ne regarde pas au niveau de ta déchéance. Ne regarde pas au niveau de ton péché, mais regarde le niveau de l'amour de Dieu qui est venu en homme pour souffrir, être sacrifié pour toi. Tu as droit à ça. Tu as droit à ça. C'est un droit divin que Dieu a fait à tous les hommes de pouvoir être sauvé par Jésus-Christ. Et si tu t'exclus, ça sera de ta faute. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour les désespérés. Qui pouvait sauver cette femme? Les gens ne faisaient que profiter d'elle. Et la rejeter. On profite d'elle, on la rejette. Mais il y a eu un homme qui n'a pas cherché à profiter de cette femme, qui a voulu juste la sauver. C'est Jésus, le Fils de Dieu, l'amour même de Dieu manifesté, l'amour total de Dieu. C'est pourquoi j'aime Jésus. Parce qu'il est venu sauver les malheureux. Jésus est venu pour toi. Ne reste pas en dehors. Jésus est venu résoudre ce que tu considères comme un problème grave dans ta vie. Il est venu résoudre ça. Tu vas voir l'exemple, la preuve de cela dans Luc 7, au verset 11. Nous restons toujours dans la même région. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Une veuve qui va enterrer son fils unique, déjà qu'elle est veuve, c'était difficile. Et en plus, il fallait enterrer son fils. Jésus, quand il voit ça, il dit, stoppez le convoi. Arrêtez le convoi. Je vais parler aux morts. Jésus réveille le mort et donne à sa mère. Quelle joie dans la cité ce jour-là. Imaginez la joie ce jour-là. Toutes les personnes qui accompagnaient la veuve en pleurant. Tout d'un coup, ils voient ce garçon se réveiller, être confié à sa mère. Quelle joie. Qui ne veut pas vivre de telles joies? Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois comprendre que Jésus est venu pour toi. Et si tu es déjà chrétien, Jésus est encore venu pour toi aussi. Pour résoudre ce que tu peux penser que c'est impossible à résoudre. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans tes projets, le Seigneur est venu aussi pour toi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Dis-toi que ça peut changer aujourd'hui. Ça a été prédit dans l'Ancien Testament, dans plusieurs endroits. Lisons par exemple Ésaïe 42. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Avant de continuer, je veux qu'on comprenne le verset 3. Il ne brisera pas le roseau cassé. Vous savez, dans le monde, lorsque vous marchez, vous voyez les plantes, les petites plantes bien en forme, bien belles, bien debout, vous vous écartez. Mais quand vous arrivez à un endroit et que vous voyez des plantes un peu cassées, vous vous permettez de marcher dessus encore. Parce que vous vous dites, ce n'est pas conforme à la règle, à la normale. Donc c'est déjà cassé, je viens achever le travail. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Donc les gens, quand ils voient que quelqu'un est faible et malheureux, au lieu de l'aider, ils profitent encore de sa faiblesse pour aller plus loin. C'est ainsi que vous voyez que même le monde sécurise les enfants. Pourquoi le monde sécurise les enfants? Parce que la nature humaine a pour habitude d'abuser des gens faibles, puisque les enfants n'ont pas un vrai discernement. On a l'habitude d'abuser des enfants. C'est pourquoi même la justice de ce monde a fait des lois pour sécuriser, pour protéger les enfants. On a l'habitude de briser le roseau cassé. Quand on trouve une plante déjà cassée, allez, on marche dessus encore, on confirme que c'est déjà cassé. Mais ici c'est écrit, Jésus lui ne brisera pas le roseau cassé. Quand il rencontrera un roseau cassé, il va chercher à relever ça. Quelle bonne nouvelle! Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Aujourd'hui nous avons peut-être des lampes électriques à incandescence, mais autrefois c'était des lampes à huile avec une mèche. Et souvent, il fallait maintenir la lampe allumée. Et quand l'huile finissait, il restait un petit lumignon. Donc une petite... La mèche était devenue rouge, mais ça pouvait se réactiver encore. Mais souvent, les gens, quand ça devenait comme ça, ils éteignaient. En soufflant, ils éteignaient le lumignon. Mais il est écrit de Jésus que lui, il ne va pas éteindre le lumignon qui fume encore. Quand il y a encore un peu d'espoir, au lieu d'éteindre, lui va ranimer encore. Nous, quand on se retrouve face à quelqu'un qui est trop mauvais, on se dit c'est fini, c'est pas la peine. On se dit, ah là, il est trop dans la drogue, c'est pas la peine. Il est trop dans l'argent, c'est pas la peine. On s'arrête là. Mais il est écrit que Jésus-Christ n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Lorsqu'il y a encore un peu d'espoir, le Seigneur agit. Nous allons voir cet exemple encore. Luc chapitre 8. Nous allons revenir sur Ésaïe 42. Luc chapitre 8. Parce que nous lisons les prophéties, nous lisons les accomplissements. Luc 8, 26. Ils abordèrent dans le pays des Gérasiniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu, très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Là, ce n'est pas lui, mais c'est les esprits qui sont en lui. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gérasiniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Cet homme était complètement perdu, possédé. Il vivait nu dans les cimetières. On l'enchaînait, il cassait les chaînes. Mais l'agneau de Dieu passait par là. Heureusement pour lui, un jour, Jésus passait par là. Celui que Dieu avait promis à l'humanité. Un jour viendra celui qui vous délivrera. Un jour viendra celui qui vous libérera de la captivité. Un jour viendra votre sauveur. C'est pourquoi, quand il est né, les anges ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix aux hommes qui l'agréent. » C'était un grand jour. Et cet homme-là passait par là. Le lumignon qui allait s'éteindre, cet homme avait atteint le dernier état d'un humain. Il allait s'éteindre maintenant. C'était un roseau déjà cassé que les gens avaient oublié. Mais Dieu n'oublie pas, bien-aimé. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il n'oublie pas parce qu'il t'a créé avec amour. Mieux encore, son fils a été sacrifié pour toi. Comment il peut t'oublier? Aujourd'hui encore, il te dit, le lumignon peut être rallumé. Le roseau peut être redressé. Il y en a souvent qui disent, mais ça fait 20 ans, 50, 30 ans. Le nombre d'années ne compte pas pour Dieu. Il est tout puissant pour réparer. Et cet homme a été guéri. Vous savez, qui d'entre nous aurait accepté que 2000 cochons meurent pour sauver un homme? Qu'une industrie agroalimentaire soit enterrée pour sauver un homme? Peu de gens allaient accepter ça. On leur dira, ah bon, on va trouver un asile psychiatrique, laissez les cochons tranquilles. On en a besoin. Mais Dieu aime tellement l'homme. Il a préféré que 2000 cochons meurent et que l'homme soit sauvé. C'est comme ça qu'il t'aime aussi. Il est prêt à tuer une industrie pour que toi, tu sois sauvé. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça Jésus. Il est venu libérer ceux qui sont captifs. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a un verset qui dit, un jour près de Dieu, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Imaginez 1000 jours ailleurs. Cet ailleurs-là, ça peut être un coffre-fort de banque. Donc un jour avec Dieu, c'est mieux qu'être seul dans un coffre-fort de banque où tu peux te servir des millions. Un jour avec Dieu, c'est mieux qu'être le cousin du roi d'Arabie Saoudite avec tout le pétrole. Que Dieu nous aide à réaliser ce qu'il est, qui nous ouvre les yeux. Et ce démoniaque a été libéré. Tout est possible avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Là où il y a encore un peu d'espoir, il agira. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu les aime. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une solution à leur déchéance. Ils ne savent pas. Maintenant, Dieu cherche qui va aller leur parler. On a mis en ligne le témoignage d'Afshin, qui était un musulman magicien, parce qu'avec le Coran, il paraît qu'il y a des versets du Coran, quand on les lit régulièrement, les esprits apparaissent et on communie avec ces esprits-là. Lui en avait et n'était arrivé au point d'être souvent consulté pour jeter des sorts aux gens, pour résoudre certains problèmes des gens. Et il pouvait, avec ses concentrations, savoir qui était dans le local voisin, ainsi de suite. Mais un jour, parce que beaucoup font ça par ignorance, ils ne connaissent pas la vérité, on lui a présenté quelque chose, il s'est lancé à fond dans ça. Mais un jour, pendant qu'il faisait ses prières d'invocation, un esprit plus fort que lui est apparu, mais pas pour son bien, mais pour vouloir l'éliminer. Il a utilisé toutes ses formules pour chasser cet esprit-là, parce qu'il en avait l'habitude. Il avait l'habitude de combattre les esprits qui étaient chez les autres pour essayer de guérir, de résoudre certains problèmes. Il a essayé de combattre cet esprit, mais il se sentait parti, cet esprit était en train de l'étrangler. Alors une voix lui a dit, apporte dans cette affaire le nom de Jésus. Apporte dans cette affaire le nom de Jésus. Alors comme lui-même le dit, quand on se noie, on ne regarde pas la couleur de la corde qu'on t'a jetée. Est-ce que c'est bleu, c'est rouge, jaune? Dans le sens, si c'est une corde, tu saisis. S'il était en temps normal, il allait commencer à dire, mais non, Jésus, non. Il a dit, je n'ai même pas discuté, j'ai apporté le nom de Jésus. Automatiquement, l'esprit a fui. Et je me suis retrouvé seul. Et j'ai commencé à chercher pourquoi Jésus pourrait-il aider un musulman. Voilà qui a été sa question. Pourquoi Jésus est venu à l'aide à un musulman? Pourquoi? Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui paraît et lui dit, je suis le sauveur, le fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. Et Jésus-Christ lui a ouvert les yeux et il a vu toute l'humanité. Il a crié, mais ce n'est pas normal. Tous les hommes sont pécheurs, mauvais, remplis de péchés. Jésus lui a dit, mais Afshin, est-ce que tu n'as pas vu que moi j'étais pardonné facilement? Il a dit, mais oui. Il dit, mais je peux aussi pardonner facilement à tous ces humains-là. Mais ils ne le savent pas. Je cherche des gens pour aller dire à tous ces humains que je peux leur pardonner facilement comme je viens de te pardonner là. Bien-aimé, au lieu de s'entêter dans une voie sans issue avec ton péché en disant que tu n'as pas le choix, en disant que la situation est complexe, la situation est difficile, il y a une solution. Jésus qui a sauvé Afshin, alors qu'il ne le connaissait même pas, il peut mieux en faire encore avec toi. Jésus est bon, il est vivant. N'allons pas dans l'impasse avec le mal. Le mal nous amène dans l'impasse. On pense qu'il y a encore, vous savez, quand on est dans une impasse et qu'on est au début, on pense qu'il y a encore du temps, il y a encore de l'espace, il y a encore de la route. Mais on finira par cogner un mur. Mais au début, on ne sent pas cela forcément. Et c'est ça qui se passe avec le péché. On pense qu'on a encore toujours du mou. On a encore du mouvement à faire. On a encore du temps. Mais l'impasse est en train d'arriver. On a vu Kadhafi, non? Il pensait qu'il y a encore la possibilité. Il a toujours réussi à bricoler, à se sortir des situations complexes. Mais l'impasse était déjà là, mais lui ne voyait plus. Parce qu'il fallait voir ça au début. Et les gens qui ne veulent pas écouter Dieu pensent qu'il y a encore du temps, pensent qu'il y a encore du mou, pensent qu'il y a encore de l'espace. Or, ils sont déjà dans l'impasse. Et quand ils vont se rendre compte de cela, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Mais j'ai souvent dit que quand Dieu parlait, c'était mieux de changer juste par sa parole. Parce qu'à un moment donné, il ne va plus parler et il va agir. Et là, ça va faire très mal. C'est comme quand nous voyons, non? C'est écrit « parking payant ». Ce n'est juste qu'un écrit. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de revolver, il n'y a rien. Juste un écrit « parking payant ». Si tu es simple, tu écoutes, tu payes tes 50 centimes. Mais si tu te dis, ils exagèrent, on est fatigué avec tout ça, tu insistes, bien aimé, tu vas voir 35 euros après. Donc, au lieu que tu obéisses à l'écrit, il n'y avait pas de contrainte, voilà que tu te retrouves avec 35 euros. Et tu continues avec l'entêtement. C'est multiplié. Il y en a qui se sont retrouvés avec des milliers d'euros comme ça, parce qu'ils s'entêtaient par rapport aux avertissements. Puisqu'après, on va t'écrire une lettre, votre montant a été multiplié, ah non, moi je ne paierai pas. Mais viendra un jour physiquement, il y aura des huissiers qui viendront physiquement entrer dans la maison, prendre des choses. C'est là que ça va devenir. C'est le même enseignement que tu devais écouter juste par écrit. Parking payant, tu n'as pas voulu écouter, c'est devenu réel pour toi. Vaut mieux pas attendre que ça devienne réel. Parce que quand ça devient réel, physique, ça fait toujours mal. Il faut écouter Dieu maintenant. Il est écrit, c'est le jour du salut. Il ne faut pas endurcir notre cœur. Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Quelle est la condition pour saisir cette bonne nouvelle? Il faut être malheureux. Voilà, c'est tout, la condition. Il faut être malheureux. Si on est satisfait, on ne peut pas saisir la bonne nouvelle. Qui est satisfait? Personne. Mais il y en a qui sont dans une fausse satisfaction. Et ça va les tuer. Vous savez, quand on prend l'extasie, comme je suivais un documentaire, quelqu'un disait, bon, quand tu prends ça, tu t'évades, tu es à l'aise. Mais ce n'est que pour un petit temps. Et aujourd'hui, il ne te reste que peu de temps. Mais tu ne le sais pas. Vous savez, quand on était au 1er janvier, ou au 10 janvier passé, ou en 2009, quand les gens parlaient du 21 décembre 2012, ils en parlaient avec force, hein. Ils ont même fait un film. Mais aujourd'hui, voyant qu'il reste quelques jours, oh non, on a mal interprété, oh, mais vous en parlez il y a 2 ans avec force. Mais parce qu'on croit toujours qu'il y a du temps. Donc pendant 2 ans, on peut se faire des affaires. On peut faire des films, sortir des articles de journaux. Ça fait les affaires. Mais on pense qu'on a toujours du temps. Mais aujourd'hui, oh non, on s'est trompé parce qu'ils savent que le 22 va rigoler sur eux. Mais non, bon, il y a eu une mauvaise interprétation. Non, nous, on ne suit pas tout ça, c'était sérieux. Et on va toujours rigoler. Voilà. On pense toujours qu'on a du temps. Toujours, on pense qu'on a du temps. C'est comme quand on reçoit le salaire. Le premier jour, tu fais des courses, mais quand tu dors toujours avec hein, le même chiffre que tu as reçu. Hein. Tu ne vas pas dormir avec le fait que tu reçois 2000 euros de salaire et tu fais quelques courses même de 320 euros, mais quand tu dors avec le souvenir de 2000. Tu ne dors pas avec le souvenir de 2000 moins 320. Donc on pense toujours qu'on en a plus. On pense toujours jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Une lettre par la poste de la banque. Ah oui, mais découvert de moins 700 euros. Ah, mais comment ça s'est passé? Il y a des esprits qui volent l'argent. Non, tu as dépensé. Ce n'est pas des esprits qui volent l'argent. C'est parce qu'on pense toujours avoir plus qu'on a. On pense toujours avoir plus d'argent. On pense toujours avoir plus de temps. C'est faux. On a peu de temps. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, saisissons la voix du Seigneur. La condition pour saisir le Seigneur, c'est être malheureux. Reconnaître que je ne suis pas ce que je devrais être. Je n'ai pas ce que je devrais avoir. Je suis perdu. Zachée était riche, mais il s'est reconnu comme malheureux parce qu'il lui manquait Dieu. Et une condition qui va ensemble avec le fait d'être malheureux, c'est la foi en Dieu qui peut sauver. Ne sois pas un malheureux qui déprime, mais un malheureux qui a foi que Dieu peut faire quelque chose pour lui, parce qu'on en a plusieurs démonstrations dans sa parole, et le Saint-Esprit témoigne cela dans nos cœurs. Et je clôturerai en disant aux gens qui sont de Dieu, le monde a besoin de la bonne nouvelle. Les gens sont malheureux, même s'ils ne le disent pas. C'est à nous de leur montrer et de leur proposer Jésus-Christ. Dieu ne cherche pas à faire de belles bâtisses qu'on appelle église. Il cherche à faire des disciples qui vont annoncer à la multitude que Jésus, le Fils de Dieu, l'homme promis depuis les temps anciens, est déjà venu pour sauver quiconque le voudrait. Le Seigneur t'appelle pour le salut. Nous avons un chant qui dit « Viens au Père qui t'appelle, reviens à la maison ». Pourquoi rester en dehors de la maison de Dieu? La maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment. La maison de Dieu, c'est sa présence, c'est son salut. Reviens au Père, et nous clôturons en lisant Ésaïe 42, le verset qu'on n'a pas lu. Parce qu'on s'est arrêté pour expliquer c'était quoi un roseau cassé. Il est écrit dans Ésaïe 42, à la suite au verset 4, « Il ne se découragera point et ne se relâchera point. » C'est extraordinaire. Il ne se découragera pas, le Fils de Dieu. Il ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés. Qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Il a appelé Jésus pour accorder le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle et la conséquence de tout cela, la délivrance, la paix et la joie. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Voilà ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui.